Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui.
On vient de faire l'amour, tu sais.
Non, tu viens de faire l'amour.
Je vous demande pardon.
Est-ce que vous l'aimez?
Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça?
Bonjour Clara.
Bonjour Flore et bienvenue dans Rome Comment, le podcast qui t'explique comment mais comment sont créés tes rom-coms préférés. Ah, le célibat, un doux moment que nous avons tous et toutes vécu, qui peut être plus ou moins bien vécu d'ailleurs. Je ne vais donc pas vous cacher que le célibat que nous allons étudier aujourd'hui ne s'est pas très bien passé, car nous allons parler du trope de l'éternel célibataire dans les comédies romantiques. Flore, qu'est-ce qu'un trope déjà?
Alors, petit rappel, un trope c'est un schéma narratif récurrent dans la fiction.
Exactement, et pour illustrer ce trope de l'éternel célibataire, nous avons choisi l'une des comédies romantiques les plus connues et affectionnées du public, Le Journal Intime de Bridget Jones. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Flore?
Oui, alors Le Journal Intime de Bridget Jones, c'est un film qui est sorti en 2001 avec Renée Zellweger, Hugh Grant et Colin Firth, donc des gros poids lourds de la comédie romantique. Et à la base, c'était une rubrique dans un journal où il y avait un chapitre par semaine pendant 10 ans. La réalisatrice du film, c'est Shannon Maguire, et elle est amie avec l'écrivaine du livre, l'écrivaine qui a aussi participé à l'écriture du scénario, aux côtés de Richard Curtis, qui est très connu pour avoir fait Love Actually et Il était temps, donc deux grosses rom-com anglaises également.
Merci Flore. L'histoire de Bridget Jones, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'histoire de Bridget Jones, une jeune célibataire de 32 ans, si je ne m'abuse, qui passe Noël chez ses parents et qui, comme d'habitude, n'a pas ramené de mec aux grandes dames de sa mère, puisque visiblement, dans sa famille, une femme ne peut pas être complète si elle n'a pas de futur époux.
Grand classique.
Et on va suivre l'année de cette jeune femme londonienne et ses péripéties avec les hommes, ou pas d'ailleurs. Et c'est très divertissant, parfois très drôle, parfois un peu trop près de la réalité, un peu triste.
Est-ce que c'est pour ça qu'on aime tant ce film? Est-ce qu'il nous parle? Oui.
Est-ce qu'on est de grosses losers?
Oui. Non, parce que la morale, c'est que Bridget est trop cool. Et d'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi, c'est un film que j'affectionne beaucoup depuis que je suis adolescente. C'est un peu pareil, l'une des premières rom-com que j'ai vues. Et c'est un peu culte, je me suis très très vite identifiée à Bridget, alors que à l'époque je n'avais absolument rien à voir avec elle parce que j'étais juste une fille de 14 ans.
Tu n'avais pas 32 ans.
Voilà, qui n'avait jamais vu de mec, mais le côté la fille un peu grosse, qui parle trop, qui est maladroite.
Un peu grosse, on reviendra dessus. Hein.
Oui, d'après les standards de la comédie romantique.
Ouais,
elle est mais du coup, je me suis très vite identifiée à elle. Et toi, qu'est-ce que tu penses du film?
Moi, c'est un classique que j'ai beaucoup regardé avec ma maman, donc je la salue.
Bisous Laurence, oui.
Une spéciale case dédiée. J'aime bien ce film parce que c'est vraiment un truc feel good où à la fin en fait je me sens trop contente pour elle parce que enfin c'est une fin qui est chouette et en même temps ça aurait pu être une fin où elle finit toute seule, spoiler évidemment elle va finir avec un homme, mais elle aurait pu finir toute seule et être heureuse parce qu'elle se reconstruit et tout, enfin c'est une fin assez positive en fait sur la figure de la femme qui a pas besoin d'être avec un homme et qui est trop bien pour certains hommes et qui doit pas voir ses standards à la baisse. Et voilà, je trouve ça très sympa. En plus, la BO est incroyable, genre vraiment un peu de funk et de soul et tout. J'aime bien. Voilà.
Tout a commencé le 1er janvier de ma 32e année de célibat.
Dès la première scène, ça pose le mood parce que Bridget commence le film par la phrase « J'entame ma 32e année de célibat ». Et elle est vue sous la neige, en pyjama, en train de sortir les poubelles, je crois.
Oui, je sais pas. Non, elle sort pas de sa voiture pour aller voir ses parents, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'était archi lugubre. Il y a une musique turbo-badante. C'est le seum puissance 10 000. Et au-delà de ça, vraiment, il neige beaucoup quand même.
Oui, je crois pas qu'il neige autant que ça en Angleterre, mais...
Bah, attends, il y avait pas le réchauffement climatique, hein. Enfin, pas
ah,
autant.
Ah, c'est vrai, 2001, à l'époque, il y avait encore des ours polaires et de la banquise. Oh. Bon, sur une note plus joyeuse, non, pas du tout plus joyeuse, car ça commence et elle dit qu'elle passe Noël avec ses parents et que sa mère essaie de la fourrer, comme toujours, avec un nouveau copain.
De la fourrer. Telle la dinde.
Non, qu'elle se fasse fourrer. Pardon, c'est pas PG-13.
Cet épisode va être en explicite.
Voilà, mais concrètement, dans les 5 premières minutes, on a à peu près... tous les clichés de la fille célibataire qui rentre à Noël, sa mère qui lui dit « Il y a un garçon mignon, je vais te le présenter » et on comprend qu'elle fait ça tout le temps. Elle lui dit « Mais comment tu t'habilles? Tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu ne rencontreras jamais de copain si tu es habillée comme ça. »
Terrible.
Et son oncle, le pareil...
L'oncle, après, alors c'est même pas un oncle, c'est un pote de la famille qu'on appelle oncle Geoffrey.
Et qui touche ses fesses, voilà, donc toujours les filles. Qui lui dit « Alors les amours, on lui parle de son horloge biologique qui passe. » Bref, ça fait même pas 5 minutes que le film a commencé. On a compris que le célibat de Bridget, c'est le problème principal de sa vie.
Et la daronne, elle est puissante, hein, parce qu'au-delà d'être ultra branchée sur caser sa fille avec quelqu'un, alors qu'à 32 ans, tu peux être seule et heureuse, bref, Elle dit, en parlant de Marc, donc le gars qu'elle veut lui présenter et qu'on n'a pas encore vu pour l'instant, son ex-femme est japonaise, une race des plus cruelles. Ça va, bon mood, hein, bonne ambiance chez les Jones.
On rappelle que ce film date de 2001, à l'époque où on était encore très raciste.
Oui, mais ouvertement.
Est-ce qu'on l'est encore en 2019? Oui, mais peut-être pas aussi ouvertement.
Enfin, pas nous, hein, les médias.
Bien sûr.
Non, mais parce que ça, après, l'amalgame, tout ça, on va être fichés, vas-y, c'est bon.
Bridget rentre donc dans la soirée et elle voit au loin Marc Darcy. Marc Darcy que sa mère lui a veut lui présenter. Et là, elle se dit, oh mon Dieu, mais en fait, peut-être qu'il est beau. Il se retourne, on se rend compte qu'il a un pull avec un petit renne de Noël.
Mais Bridget lui est assortie puisque sa mère, après lui avoir dit « Tu n'auras jamais de petite amie si tu ressembles à une rescapée d'Auschwitz » et l'avoir envoyé se changer, lui a donné une espèce de truc avec un col à jabot rouge atroce. Donc finalement, ils sont tous les deux très mal habillés.
Très Ron Weasley.
Ron Weasley.
Voilà.
Très Ron Weasley.
Mais du coup, quand il se retourne, malgré son pull, que personnellement j'ai trouvé très saillant, mais il est quand même sacrément mignon parce qu'il est joué par Colin Firth. Et pour la petite anecdote drôle, dans le livre Le Journal de Bridget Jones, Bridget est fan de l'acteur Colin Firth. Première interaction avec Marc Darcy, ça pose aussi le personnage de Bridget qui clairement parle beaucoup, raconte qu'elle a la gueule de bois, qu'elle fume trop, qu'il faut qu'elle arrête de boire et de fumer pour le nouvel an. Et à côté, il y a juste Marc Darcy qui est
impassible, so flegme anglais.
Voilà,
genre vraiment fouf.
Très très coincé. Coincé, mais coincé pas très gentil, puisque après elle surprend une conversation où il parle avec sa mère et dit arrête d'essayer de me caser avec tout le monde, y compris avec,
je l'ai, cette folle incontinente verbalement qui mange comme 15, boit comme un trou et s'habille comme sa mère.
Voilà, il a été rhabillé pour l'hiver. Donc
attends, on n'a pas précisé que sa mère arrive pour le présenter Marc en lui proposant des cornichons. C'est, mais tu, hein, un cornichon seul comme ça à l'apéro? Bah non, c'est les Anglais.
C'est délicieux les cornichons. Oui, disons, sa mère a vraiment un big love avec les cornichons que je ne peux que respecter et comprendre. Donc, après ce fabuleux moment où elle se fait désinguer par Marc Darcy, on a la scène d'ouverture qui est vraiment culte et qui représente une nouvelle fois le mood de Bridget pendant ces moments, qui est elle en train de boire seule chez elle en pyjama sur la chanson All By Myself.
Reprise par Céline Dion, donc en plus c'est la version qui est vraiment genre émotionnellement terrible, mais parce que Bridget en fait elle a eu un déclic dans la scène juste avant, et sa voix nous dit le célibat c'est nul. Donc son goal pour cette année c'est de se trouver un cum. Je reviendrai sur la définition du célibat qui n'est pas forcément nulle et que je trouve un petit peu réductrice surtout au niveau de la femme, mais on y reviendra.
Mais n'oublions pas que dans les comédies romantiques, le but premier du film est de trouver de l'amour, donc forcément le célibat ce n'est pas... C'est un problème.
Voilà. Sauf si on s'aime à 100% soi-même. Mais
voilà, mais c'est ça.
En 2001, on s'aime pas. Voilà. En 2001, on se déteste.
En 2019, on essaie.
Ça va.
Elle commence donc un journal intime où elle fait des résolutions pour l'année. Alors, les résolutions bien clichés, arrêter de fumer, perdre du poids, trouver un petit copain.
Perdre du poids, elle est à 65 kilos. Hein, donc, si elle perd du poids,
Bridget doit faire un 38-40, donc...
Voilà. En fait, on la considère comme grosse tout le film. C'est un petit peu pas un souci, mais disons qu'elle est pas vraiment grosse en fait. Après, pour les standards d'Hollywood de l'époque, où vraiment la minceur dans les années 2000, c'était archi rachitique, tu vois. Enfin, les standards, elle est un petit peu ronde. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on lui dit grosse et tout. Et je suis un peu genre, bon, en 2019, elle est pas grosse, hein, Bridget. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on avance. Size. Voilà.
Oui, c'est vrai. Et parmi ces résolutions un peu clichés, il y a la première résolution de ne surtout pas s'intéresser amoureusement à son boss, Daniel, qui est visiblement un gros con, mais il est joué par Hugh Grant, donc forcément un gros con, mais avec un joli sourire.
Ça, et ça... passe ! Ça passe ! Évidemment, puisque les femmes sont vénales, on vous le rappelle. Alors Hugh, non seulement il est très beau dans ce film, mais son arrivée, ça pose le personnage de ouf, parce que les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur Respect de Aretha Franklin. On va voir qu'il n'a pas beaucoup du respect pour les femmes, mais donc c'est vraiment ce qu'on appellerait maintenant un fuckboy, un garçon de merde, mais il est très très classe, et puisque c'est son boss, c'est un peu un truc inaccessible, voilà.
Voilà, c'est sûr que le cliché du boss qui est C'est sûr que le cliché du boss qui est l'objet des fantasmes et des désirs, c'est un trope assez courant dans les comédies romantiques. Je pense notamment à The Holiday ou 27 Robes, où les héroïnes sont amoureuses de leur boss. Donc Bridget, elle, elle travaille dans l'édition. Rapidement, dans les premières minutes aussi, ça pose un peu sa vie. Elle a une meilleure amie dépressive.
Qui est jouée par l'actrice de Mimi Géniard, qui fait deux acteurs de Harry Potter, puisque son père est joué par le professeur Slughorn. 10 points pour Serpentard.
Donc elle a une meilleure amie dépressive. Elle est secrétaire dans un travail où elle n'aime pas trop sa boss et elle fait des gaffes. Et après le travail, elle se retrouve pour boire beaucoup, beaucoup avec ses copains qui sont donc la dépressive, une autre journaliste et un meilleur ami gay parce que bah il en faut bien un dans la comédie romantique.
J'ai noté ça d'entrepreneuse, coureuse de jupons et ex-popstar gay, ce qui nous fait un casting incroyable.
Grave, attends, moi aussi j'ai le même groupe de potes où je jouais pour l'avoir.
Après, on a un retour au bureau gueule de bois qu'on a peut-être tous vécu, peut-être pas. Mais ce retour gueule de bois se fait sans jupe, ce qui est un petit peu spécifique. Ça, personnellement, je ne l'ai jamais tenté. Donc, oups.
Non, elle porte une jupe. Une jupe.
Oui.
Précisons, attends, voilà, on a vu le film, ils vont se dire waouh, elle avait vraiment la gueule de bois. Non,
elle porte une jupe.
Elle vient juste en mini-jupe, en effet, très mini, mais bon, je dirais, attends, elle a des coups. Enfin, c'est pas non plus, waouh!
Oui, mais en fait, comme elle a un pull long, ça. Enfin, on pourrait croire qu'elle a pas de jupe aussi, ça se voit pas très bien, quoi.
Voilà. Et elle reçoit un mail de son patron, Daniel, qui lui dit: tu es. Enfin, tu as oublié ta jupe est malade.
Est-ce que ta jupe est malade?
Est-ce que ta jupe est en congé maladie? Et donc, il lui écrit ça tout en fumant une cigarette dans son bureau, donc on est vraiment en 2001 parce que. Ça, en 2019, ça s'appelle du harcèlement sexuel au travail.
Déjà, et ensuite du tabagisme dans un endroit public. Et je pense que déjà en 2001, c'était pas ouf. Hein,
Patron.
Voilà.
Comme on est dans une comédie romantique où la fille est une éternelle célibataire, l'éternelle célibataire va très vite tirer des conclusions, puisqu'on a la scène où elle s'imagine littéralement son mariage avec son patron après trois mails. Ce que, personnellement, je n'ai jamais fait, ce n'est pas du tout mon.
Moi j'ai remarqué que ça se touche dans l'ascenseur, donc j'aimerais effectuer un petit rappel. Se toucher dans l'ascenseur au bureau quand on est boss et employé, c'est ok quand c'est mutuel, hein. On fait pas ça, genre comme ça.
Donc elle se dit waouh, là c'est mon moment, c'est ma chance. Et en fait, il va y avoir une soirée de lancement pour un livre vu qu'elle travaille dans l'édition.
La moto de Kafka.
Voilà, ça, j'aimerais bien le lire ce livre.
Oui.
Et les amis de Bridget la briefent et lui disent, je cite, ton bonheur entier dépend de cette soirée.
Ah ouais.
Donc on a à nouveau le trope de l'éternel célibataire dont le bonheur ne va vraiment dépendre que si elle arrive à choper. Et donc s'enchaîne une scène très
un montage préparation, ce qu'on adore vraiment
dans les comédies romantiques classiques. Elle s'épile, elle met une culotte pour mouler son ventre, pour avoir la
Elle met une gaine, elle met. Mais en plus, ça sert à rien, elle a le ventre plat, genre. Elle met une gaine, mais un truc. Mais je pense, même ma grand-mère, elle a des trucs plus stylés. Honnêtement, cette gaine-là, c'est la gaine de l'enfer.
Voilà. Et elle est très jolie, à part bon, une coiffure un peu des années 2000, mais c'est
même
pas grave.
Même la robe un petit peu années 2000, hein, un peu de velours noir.
Oui, bon, voilà, c'est pas ouf. Et donc, elle arrive à cette soirée de lancement. Et évidemment, à cette soirée de lancement, elle est un peu bête, elle est un peu maladroite, parce que, évidemment, l'éternel célibataire, il faut qu'elle soit, qu'on puisse se sentir proche d'elle, qu'on se sente comme elle, et du coup, évidemment, il faut qu'elle soit bête.
Et est-ce qu'on a précisé qu'elle était blonde? Parce qu'elle est blonde aussi, hein, évidemment, l'éternel célibataire.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va être mise rapidement en opposition avec une grande brune mince intelligente.
Natacha,
qui est l'ami avocat de Darcy, parce que Marc Darcy, rappelons celui qu'elle a croisé à Noël, est à la soirée. Tiens,
quelle surprise. Natacha, j'ai noté que c'était une sale meuf, une collègue avocate qui veut juste son cul, et ça va se prouver être vrai.
Clairement.
Là, on peut clairement dire que la guerre commence entre la célibataire bête et l'avocate intelligente brune.
Voilà, mais de toute façon, elle va pas trop avoir le temps d'y penser parce qu'en fait, elle va complètement se ridiculiser à la soirée de lancement.
Ouais.
Encore une fois, on installe le cliché de la fille célibataire, un peu bébête, un peu maladroite. Et du coup, à la fin de la soirée, elle est dans un coin en train de boire, parce qu'évidemment, rappelons-la qu'elle a un petit problème avec l'alcool,
quand même.
Ouais. Complètement déprimée. Marc Darcy la voit, s'apprête à aller la réconforter. Quel homme!
Sauf que le patron du cul y arrive avant. Ta-ta-da-da. Du coup, Daniel emmène Bridget au resto. Marc, on le voit, il est un peu triste tout seul, genre un peu émoji triste.
Et c'est vrai qu'on sent directement qu'il y a bizarrement une tension entre Marc et Daniel, dont on ignore pour l'instant
pour le moment. au resto, je trouve, il parle grave mal, Daniel. Genre, vraiment, il dit beaucoup de gros mots, il utilise beaucoup d'expressions. Genre, elle essaie de lui dire, elle lui dit genre, du coup, tu penses quoi de, du coup, je sais pas, d'un conflit,
du conflit en Tchétchénie.
Voilà.
Parce qu'elle a révisé avant la soirée pour avoir des anecdotes intelligentes, à dire pour avoir l'intelligente.
Et il lui parle trop mal, il lui dit ouais, mais je pourrais, enfin, j'en ai rien à foutre en fait, pourquoi tu parles de ça, c'est archi con. Mais d'ailleurs, comment tu connais Marc Darcy? Il lui demande ça, c'est plus intéressant que la Tchétchénie, hein.
Et est-ce que c'est là directement, oui, qu'il lui dit.
Ouais, il lui dit qu'en fait, il y a un twist, un premier twist, puisque Marc aurait.
Voler la fiancée, voilà. La fiancée de Daniel.
Coucher avec la fiancée de Daniel et Daniel les aurait surpris. En fait, c'était des ex-potes de fac et finalement, ils se sont éloignés à cause de ça.
Voilà. Le grand cliché aussi de comédie romantique de ton meilleur ami qui pique ta meuf.
Voilà. Et là, alors il y a un plan baiser qui est incroyable. Genre un roulage de pelle, mon gars. Mais on n'a jamais vu ça. C'est incroyable.
Ça roule, ça roule, ça roule.
Ça roule du patin.
Ça roule, en fait, ça roule littéralement sur le sol. Parce qu'ils savent à faire l'amour, coupé par la gaine. She's back. bitches.
La gaine is loved. Genre vraiment, la gaine. Voilà. C'est bien parce que c'est un mec qui s'en bat les couilles.
Mais
en fait. Il est genre.
Voilà. C'est rigolo. On doit dire que la scène est rigolote parce qu'il se rend compte du coup qu'elle a un sous-vêtement pas du tout sexy et il en rigole, il la rassure. Donc on se dit. Oh, il est bienveillant. Mais en fait, il remonte à de quelques tout petits points dans notre estime.
Classique fuckboy, nous verrons par la suite.
S'enchaîne donc un petit montage où elle marche dans Londres et elle dit qu'elle vit un peu sa meilleure vie parce que...
Tout est beau.
En fait, en effet, elle n'a toujours pas perdu de poids et elle continue de fumer, mais toutes les cigarettes qu'elle fume sont après le
coït.
Post-coïtale.
J'adore, c'est trop drôle.
Donc voilà, sauf que... Ensuite, on a un plan d'elle qui est au lit, en effet, avec une cigarette, avec son patron, Daniel. Donc, elle couche avec lui depuis littéralement 2 jours et elle lui dit « Mais comment on va faire au boulot, toi et moi ?» En gros, elle lui lance le fameux « Mais qu'est-ce qu'on est, en fait ?»
Au bout de 2 jours.
Ça fait 2 jours.
Après, chacun a ses angoisses, chacun a ses besoins, tu vois, de savoir et tout. Mais 2 jours, c'est tôt, ma sœur, là, quand même, c'est bientôt. Ensuite, il y a une scène un peu cocasse avec sa mère parce que sa mère, en fait, se spécialise dans la vente de produits en grande surface et elle vend littéralement un branleur d'œuf. Mais genre, cet objet, il est designé pour vraiment être genre une allégorie d'un pénis.
Oui, tout ça pour ôter la coque d'un œuf alors que c'est clairement pas du tout aussi... Enfin, c'est beaucoup...
Il caille un œuf, je sais pas.
Mais grave, genre, je sais pas.
En fait, c'est une espèce de baguette. Tu rentres ton œuf, tu l'agites vraiment comme si tu pratiquais la masturbation sur un homme. Et ensuite, un liquide blanc. Qu'est-ce que c'est? Il y a pas ça dans les œufs.
T'as raison, j'avais pas du tout vu ça comme ça, mais c'est vraiment une allégorie de.
Il y a un liquide blanc qui gêne. Ouais, évidemment, ouais. C'est une allégorie de la frustration sexuelle de la mère, puisque sa mère parle beaucoup de ses problèmes de sexe en fait à sa fille.
Parce que en fait, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve à regarder sa mère qui branle un œuf? c'est parce qu'en fait elle le dit très bien, Bridget, elle dit quand une partie de ta vie va bien, sous-entendu la partie amoureuse et sexuelle, une autre partie se casse la gueule, sous-entendu sa vie de famille, puisque sa mère demande le divorce, enfin pas le divorce,
non,
mais la
séparation,
avec son père, et elle devient vendeuse de vues à la télé,
oui, genre du téléachat sur M6 le matin.
Sa mère, elle vit un peu sa meilleure vie
en fait. Elle est avec un mec qui est un host, qui est vraiment le cliché de l'homme homosexuel dans tous les films, genre, enfin dans le sens cliché où vraiment il est déjà il est habillé en lilas, il a vraiment tout, il est très maniéré, très efféminé et tout, et j'étais là, oh punaise, un mec on dirait qu'il est gay, mais en fait il est hétéro dans le film.
Bon,
c'est
après,
bien,
c'est pas sa vie, il est peut-être bi, hein, mais bon,
oui, voilà, enfin, pourquoi on est en train de le juger,
on sait pas, ils sont peut-être avec vous.
Mais voilà, j'ai trouvé finalement c'était un peu progressiste, voilà, écoutez,
mais même si la famille de Bridget s'écroule un tout petit peu, elle part en week-end de famille quand même, hein, précisons, oui. Avec Daniel qui l'amène, qui accepte de venir avec elle en week-end.
D'abord ils vont se poser dans un petit hôtel et après ils vont à une fête
donc,
de famille.
Donc c'est vrai que là on se dit waouh, il lui envoie quand même des signaux en mode je viens avec toi, sachant qu'il a accepté de venir à une fête dont le thème est quand même pute et prêtre pour des adultes de 50 ans. Voilà, on passera ce détail. Donc
l'Angleterre.
Ils arrivent, en effet, dans un petit hôtel très charmant. Et qui se trouve à l'hôtel comme par hasard? Oh, mais c'est Marc Darcy.
Oh là là.
Et Natacha, la grande brune, qui eux sont venus aussi pour la petite fête. car rappelons que les parents respectifs sont amis.
Et le fait de partir en week-end pour Bridget, c'est très important puisqu'elle dit « Je ne suis plus une célibataire tragique ». Donc personnellement, je fais pas mal de week-ends. Ça peut pas forcément dire qu'on est plus célibataire, hein. Il va falloir arrêter de s'emballer.
Mais c'est vrai que c'est quand même un peu le moment du film où t'as l'impression que tout va bien parce qu'elle fait du bateau, enfin elle fait de la barque avec lui.
Elle fait de la barque, c'est rigolo. Parce qu'en plus, ils font des blagues de cul sur la barque, genre lui, il lui déclame des chansons paillardes, quoi, enfin des trucs. Et à côté, t'as Natacha et Marc Darcy qui se lisent, je sais pas, du Nietzsche ou quoi dans
ce film. Non, ils font leur affaire de droit, ce sont tous les deux avocats.
Ah oui, c'est vrai.
Ils sont en train de parler du gars. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs Marc Darcy qui regarde
Bridget
de façon un peu envieuse en se disant tiens, ils ont l'air de pas mal s'amuser. Ouais. Pendant que lui, il est littéralement en train de ramer sur une barque avec l'autre meuf.
Ensuite, il y a une scène post-coïtale un peu cocasse, on va dire, puisqu'elle lui demande « Tu m'aimes ?» et lui dit « Tais-toi ou je te reprends par le cul ?» Bon, c'est pas la réponse à laquelle on s'attend.
Bon, écoutez, donc bref. Clairement, on sait qu'il se passe
des petits bails.
Des petits bails,
en tout cas, Daniel, il a l'air beaucoup moins investi dans cette relation émotionnellement que Bridget, on va voir.
Enfin, il est quand même bien leur week-end de famille.
Ah, mais ça veut rien dire, hein.
Sauf que, évidemment, lol, il a dit qu'il venait et le lendemain, il se réveille. Et
oui,
il
mais
dit...
attends, la maison d'édition est en danger. Comme on remarquera qu'il y a toujours une crise financière dans les rom-com. Parce que déjà, 30 ans sinon rien, le journal est en danger. Venez, on achète plein de choses. Voilà. Là, ça va être un peu le same.
Et d'ailleurs, pendant cette scène, il est pas super gentil, Daniel, parce qu'il lui dit tu te rends pas compte que la boîte est en danger, tu te rends pas compte, parce que t'es genre sous-entendu, t'es un peu qu'une petite secrétaire.
Ouais,
et ça renforce encore le côté Bridget, elle est bête, elle est pas très intelligente. Et la pauvre, son cas ne va pas spécialement s'améliorer, puisque du coup, pour la fête pute et prêtre, elle vient déguisée en petit lapin avec un espèce de corset, enfin le classique, un peu
ouais,
comme
un Playboy,
dans...
quoi.
En Playboy, exactement, c'est la même tenue qui peut revenir parfois dans les comédies romantiques, comme dans Lolita Malgré Moi, par exemple.
Aussi, ouais.
Et elle débarque à la fête, et un nouveau classique, une nouvelle trope bien connue, fête déguisée, où en fait... personne n'est déguisé.
Sauf que, alors là, c'est vraiment une fête déguisée, sauf qu'en fait, elle a pas eu le mail... qui disait que c'était pas déguisé parce que c'est l'oncle Geoffrey, celui du début, qui est un peu pédophile, qui était chargé de les envoyer. Et comme par hasard, il l'a pas envoyé à Bridget, et, parce que c'est la seule jeune, en fait. Et du coup, voilà, elle est venue à moitié dénudée.
Voilà.
Fouf, je ne sais pas quoi dire. Imagine ta mère, elle t'appelle et elle te dit « Ma chérie, on fait un barbecue dimanche, le thème c'est pute et prêtre oui. !» Mais c'est quoi cette famille?
Je me pose des questions. Mais du coup, la pauvre, donc elle est habillée en prostituée et elle est l'une des seules à l'être. Enfin, après, il y a juste une petite blague sur sa tante qui l'a aussi. Et il y a toujours Marc Darcy qui est là.
Il est toujours là, ce con. Et en plus, elle est là sans Daniel. Donc tout le monde pense qu'elle a un petit peu menti sur le fait d'avoir un copain.
Mais quelqu'un demande mais quand est-ce qu'on verra Daniel? Et Marc Darcy dit à voix haute que Daniel est un bouffon, concrètement. Ouais. Et du coup, Bridget se dit.
Il est jaloux.
Voilà.
Du coup, elle retourne chez Daniel après s'être embrouillée avec Marc, parce que classique également. Daniel, qui la trompe, mais qui est surpris.
Oui, en effet, elle rentre, elle entend du bruit, donc elle va dans la pièce en se disant « Mon Dieu, il y a quelqu'un !» Et en fait, il n'y a personne, puis après elle se rend compte qu'il y avait un manteau rose dans l'entrée, parce qu'évidemment, les filles portent du rose.
Évidemment.
Et en effet, on se rend compte qu'il la trompe, et pire, elle l'ouvre, et là, il y a une grande fille brune mince, qui ressemble d'ailleurs un peu à son rival,
oui, j'ai
Natacha,
cru que c'était Natacha, et en fait, c'est pas Natacha.
Et qui la sort la phrase
oh, « Je croyais que tu avais dit qu'elle était mince !»
Donc c'est qui cette grosse cette chouin genre what?
Non mais franchement c'est archi violent, genre vraiment un truc qu'on peut reprocher à ce film aussi comme le film de la semaine dernière, c'est la solidarité féminine, elle est où les gars? Enfin franchement j'ai dit la semaine dernière, genre ça fait une semaine qu'on a fait le podcast alors que pas du tout, vous me comprenez. Bref, on arrive au moment Holly's Lost, le moment qu'on préfère. Le moment
parce
du
que...
l'inverse du climax, genre voilà. Vraiment fou.
Et là il y a une scène que j'aime bien parce qu'elle regarde la télé et tout à la télé lui rappelle sa rupture, qui je pense est un moment qu'on a tous vécu, c'est-à-dire qu'elle voit un documentaire animalier avec des lions
qui font l'amour.
Ensuite elle a un autre film d'amour où il y a une histoire d'horloge biologique, et le troisième c'est littéralement une scène d'une fille qui se fait tirer dans le cœur.
Ouais.
Donc là elle se dit waouh, big mood,
énorme mood. C'est donc le retour du triste célibat, puisque le célibat est triste, on le rappelle. Oh non, pauvre bichette.
Et on a aussi le classique de l'éternel célibataire, où quand elle confronte Daniel en lui disant mais what the fuck, on apprend qu'en fait il est fiancé
avec la chouin
depuis le début, et il lui dit je suis à un âge où je veux quelque chose d'extraordinaire.
Et surtout, il s'excuse et il dit « Oh, je suis désolée, Bridget. » Mais j'étais genre « Mais tu on s'en fout, en fait. Je suis désolée, mais comment tu t'es comportée, mon gars ?» On dirait une telenovela, cette scène, parce qu'il est vraiment « Je suis désolée, Rodriga. Je suis déjà fiancée avec Albertine. » Genre, oh là 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 là. Il s'en passe des choses. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bourre la gueule sur chaque canne.
C'est ça. Mais du coup, elle se dit... Là aussi, on a un moment assez classique de l'éternel célibataire qui est, après qu'elle est déprimée, elle décide de reprendre sa vie en main. Et par exemple, elle jette tous ses bouquins sur l'amour et elle achète que des bouquins en mode apprendre à s'aimer.
De développement personnel.
Encore une fois, big mood. Elle va au sport, elle vit sa meilleure vie et elle décide de changer de boulot. Et il y a une scène de départ à son boulot assez culte.
Incroyable.
Où elle dit texto à Daniel devant tout le bureau. Je préférerais torcher le cul de Saddam Hussein que de bosser une minute de plus à côté de toi.
Oh fou! Et là, tout le monde est un petit peu genre, ah, oh, c'est un peu stylé quand même. Donc moi, j'étais là genre, oh, en plus, elle sort sur Respect de Aretha Franklin, qui était donc la musique d'introduction de Daniel au début. Mmh. Et en fait, c'est un peu comme si elle s'était appropriée cette relation avec Daniel et qu'elle était sortie plus grandie. Enfin, le cinéma, quoi.
Voilà.
Elle dégote donc un nouveau job à la télé et il y a cette première interview qui se passe plutôt bizarrement, puisque...
Il y a une erreur, en fait, elle doit descendre d'un pôle de pompiers pour l'interview et en fait il y a un problème de raccord, elle doit remonter, retomber, bref elle n'y arrive pas et en fait elle tombe sur la caméra et c'est indirect et tout le monde concrètement voit son cul
à la télé
et la blague évidemment c'est qu'elle a des grosses fesses
alors que je peux vous trouver environ 10 fesses plus grosses que celles de Renée Zellweger, peut-être même plus, carrément beaucoup plus, mais elle reste positive et ça c'est vraiment le truc qui commence à devenir bien avec le personnage de Bridget, c'est qu'elle se dit nothing can touch me, tu vois.
Voilà. Non, mais quand même, elle bade un peu, surtout que la pauvre, elle bade encore plus parce qu'elle se retrouve à un repas entre amis avec que des couples. C'est la trope de l'éternel célibataire qui se retrouve avec que des gens en couple, dont qui est encore là? Jingle.
Mais Marc Darcy, il est ami avec tout le monde. En fait, je sais pas, il est grave les beaucoup. Par contre, on est d'accord que genre, enfin. Colin Firth, il a beaucoup de charme, mais là, dans ce film, son personnage, il est archi stoïque, il fait jamais rien, ouais. Il a l'air constipé tout le temps.
Il est pas ultra expressif, c'est vrai, mais il est là avec Natasha, donc l'autre avocate, ils sont pas encore en couple, mais on sent que ça arrive, et on a un peu les mêmes choses que la première scène, où tout le monde lui dit « Comment ça va les amours? Allez, TikTok, t'attends quoi ?» Genre,
c'est un homme encore qui lui dit TikTok.
Et t'as envie de dire « Merci les gars !» Enfin, genre, elle est, on
oui,
est
parce
pas au courant, quoi.
Encore les parents, la famille, bon, on n'accepte pas, mais genre, c'est plus compréhensible que tes potes. Enfin, bah, voilà. On voit du coup qu'il y a un jugement sur le célibat de la part de toutes les générations, et ça, j'ai trouvé ça assez bien, parce que c'est vrai qu'on... même notre génération, on se met une pression folle à nous-mêmes pendant notre célibat. Je trouve ça terrible, quand même. Et là, il y a une nana qui lui pose une question. Elle lui dit « C'est vrai, Bridget, pourquoi y a-t-il autant de célibataires de 30 ans ?» Mais c'est pas une ambassadrice, en fait. Enfin, c'est pas genre la chef des célibataires, en fait.
Et là, en plus, elle essaie de faire une petite blague drôle en disant « Bah, peut-être que c'est compliqué quand sous notre corps, on a que des écailles. » Et là, personne ne pige la blague. Donc la pauvre, elle part. Mais elle est rattrapée par qui ?
Encore lui,
Marc Darcy. Pauvre Marc Darcy qui du coup laissait lui dire j'ai bien aimé ton reportage à la télé et elle lui dit mais tu sais quoi, c'est pas la peine de me faire passer pour une débile plus que je ne le suis parce que je sais que je suis une idiote et je sais que tout le monde le pense. Donc là clairement elle est très négative envers elle-même. Mais la plot twist,
c'est qu'il s'excuse, il lui dit je suis désolée si je t'ai fait penser que t'étais une idiote. Il lui liste plein de petits défauts et à la fin il dit mais moi je t'aime bien.
Oui, il lui dit comme tu es. Je ne pense pas que tu sois idiote, je t'aime vraiment bien comme tu es. Et là, c'est le moment, quelqu'un voit enfin l'éternel célibataire pour qui elle est, puisqu'il lui cite quand même un peu ses défauts, mais qui lui dit « t'es comme ça, mais je t'aime quand même ». Sur ce, on enchaîne sur un nouveau reportage qu'elle fait. Elle est envoyée pour aller à la fin de un procès pour essayer de faire un interview, sauf qu'elle rate littéralement l'interview, les mecs partent du procès avant qu'elle puisse les avoir. Elle panique, mais qui sait qu'elle croise?
En plus, elle est en train d'acheter des clubs dans un tabac et genre, Marc Darcy, c'est vraiment dans Halloween, c'est vraiment Mike Myers, genre, dès que tu ouvres une porte, il y a Marc Darcy, il est là, il t'attend, genre. Mais c'est trop mignon parce que quand elle le croise, elle lui dit, ah, salut, tu m'aimes juste comme je suis. Et j'étais genre, oh! Elle est tellement genre, elle est vraiment très naturelle, elle a pas trop de filtre, Bridget, j'aime bien.
Bah, c'est le personnage de l'éternel célibataire un peu maladroite.
Voilà.
Mais du coup, c'est là qu'elle se rend compte qu'en fait, elle n'a pas réussi à avoir d'interview, mais. Qu'est-ce qu'on se rend compte ? En fait,
qui était l'avocat ?
Darcy était l'avocat de la personne qu'elle essayait d'interviewer. Et du coup, elle réussit à couvrir l'affaire et à faire un interview que tout le monde dit est génial, que moi j'ai trouvé un peu bizarre parce que c'est un peu un interview où elle
c'est
dit...
C'est un peu people alors que c'est un cas genre de déportation, genre c'est un peu
et elle dit « Waouh, comment vous l'avez aimé ?» Mais peut-être que pour, on sait pas là où elle travaille, c'est peut-être le ton, mais en tout cas, ça marche bien, c'est mignon. Elle est contente, elle réussit un peu... là, elle a un peu réussi professionnellement.
Ensuite, c'est son anniversaire. Elle cuisine pour son dîner d'anniversaire, donc c'est le soir même, en fait, de l'interview. C'est un désastre, hein, parce que l'éternel célibataire ne sait pas cuisiner. L'éternel célibataire est en couple avec Picard, visiblement. Sauf que, petite surprise, qui est là encore quand elle ouvre une porte?
C'est Marc.
Non, mais je te jure, le gars, il est partout.
Mais c'est trop mignon parce qu'il vient avec un journal dans lequel il y a un article sur elle pour vanter l'interview qu'elle a fait. Donc, c'est quand même super mignon.
C'est rapide, hein.
Et ils décident de rester. Ils cuisinent ensemble. C'est drôle. Ils flirtent. Ils s'entendent bien. Là, on sent qu'il y a une alchimie, même s'ils restent très stoïques.
Et les potes arrivent, genre la bande de potes ultra, on va dire, dynamique, arrivent et ils sont archi fans. Ils sont là, genre, oh, c'est Marc Darcy.
Et là, ils disent... Et ils portent un toast pour un an le repas d'anniversaire. Ils disent à Bridget qu'on aime.
Exactement comme elle est.
Mais du coup, là, c'est pareil, un peu un petit moment sympa du film. La petite mignon. Célibataire, elle a ses copains, ses copines et le garçon mignon.
Et là, la vie décide
que ça allait être compliqué. Qui se pointe? Daniel, son boss est de retour.
Oh là là, Daniel arrive donc dans son appartement, il pleurniche et il est genre « Bridget, je sais pas ce que je veux, je sais pas si je veux me marier, en fait c'est toi que j'aime » et genre Bridget elle est là, hein, elle est un peu genre perdue, elle dit pas non mais elle dit pas oui et en fait là il y a Marc Darcy qui dit « Je m'en vais » et ça dérape.
Voilà. Oui, alors là, rappelons qu'à ce moment de l'histoire, tout ce qu'on sait sur Marc et Daniel et leur rivalité, c'est que Marc a volé supposément la fiancée.
Oui, même pas supposément, là, c'est voilà, pour nous c'est ce qu'on sait.
Ouais. Marc a volé la fiancée de Daniel, donc nous on comprend pas trop ce qui se passe. Il lui dit bah vas-y sors dehors, littéralement.
Viens on sort.
Voilà, viens on sort. Et là on a le fameux, c'est un peu le classique de littéralement deux garçons se battent pour une même fille. Ouais. Et là ils se battent vraiment physiquement dans une scène assez mythique sur
Les Weather Girls. Et d'ailleurs ils sont en face d'un resto grec et Tom, le pote, l'ancienne pop star, il va dans le resto, il fait « Sortez, il y a une baston !» Et
genre, bah attends, mais c'est pas la sixième B, là enfin, Et tout le monde est en mode « Fight !»
Les gens, ils sont
fight.
Trop chauds.
Bah, bon, voilà, mais donc, ils se fight quand même, ils rentrent dans le resto, ils pètent une vitre,
ils en pètent une deuxième en rentrant.
Voilà, et ça finit quand même par Darcy qui met une bonne grosse droite à Daniel.
Il fait un KO, hein, direct, ouais. Il est en bas, et il se relève d'un KO, Daniel, et direct, il veut niquer le mec, il est genre...
Voilà, ça finit pas bien pour lui, il finit quand même à terre. Bridget se jette un peu sur Daniel qui en effet vient de prendre une grosse patate et elle dit à Marc mais ça va pas la tête,
mais t'es complètement dingue.
Problème, voilà, c'est quoi ton problème? Et là, la scène qu'on kiffe, c'est que Daniel lui dit viens ma petite Bridget, on va se remettre ensemble. Et là, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit exactement ce que lui lui avait dit au moment de la plaquer. Je crois que je cherche quelque chose d'extraordinaire.
Et elle lui dit surtout, et toi, t'es pas assez bien pour moi, je mérite mieux. Et là, on est genre, oh le glow up, oh
là là.
Et là,
on se dit, tous les bouquins de développement personnel qu'elle a lus ont peut-être marché.
C'est vraiment devenu une naturopathe, quoi. Genre, vraiment, il y a une liaison. Fouf! Du coup, c'est le retour de Noël, il reneige, et elle passe Noël chez son papa, qui est un peu tout seul. La scène, je l'ai trouvée adorable, parce qu'ils sont tous les deux en pyjama avec des couronnes de crackers sur la tête, et ils regardent, c'est un peu triste, ils regardent le téléachat avec la mère, qu'on voit en fait progressivement à la télé devenir archi triste avec son nouveau compagnon, donc Juliane.
Et dans cette scène, en fait, pendant qu'ils regardent la télé, qui c'est qui débarque à la maison? C'est la maman. Oh. La maman qui arrive et qui dit « Je suis désolée, en fait, je vous aime. » Du coup, en fait, là, c'est vrai qu'il y a un espèce de truc qui se tourne où, à un moment, Bridget a été en couple et ses parents sont partis en live. Et là, ses parents se remettent ensemble et elle, ça devient amoureuse et nouveau ruinée. Et on a vraiment eu, de toute façon, un truc cyclique de un an. Le Noël suivant, on en est au même point mort. Et Bridget, clairement, n'est pas très heureuse parce qu'elle est toujours célibataire.
Comme l'année dernière, les Darcy sont allés chez les Jones à Noël. Cette année, les Jones vont chez les Darcy. On dirait une chanson de Simon & Garfunkel, mais c'est le film. Et là, le plot twist, le plus gros plot twist de l'histoire.
Plot twist qui, en fait, rappelle celui d'Orgueil et Préjugés, comme on l'a dit au début, qui est, en fait, l'histoire sur laquelle est basée Bridget Jones.
Si vous avez peu de culture, ce n'est pas grave, vous êtes quand même une belle personne. Parce que moi, j'avais pas lu Orgueil et Préjugés, j'étais très contente.
Ah, j'ai pas lu, mais j'ai vu le film parce que qui joue dans la version de la BBC qui joue
Colin Firth.
C'est Colin Firth.
Encore ? Oh là là !
Je crois, attends, waouh, je suis pas sûre. Fact, checkez-moi les gars, c'est peut-être n'importe quoi.
Non, peut-être dans tes rêves.
Bref, on s'écarte complètement dans cette histoire parce que ce qui est important, c'est qu'on apprend par la mère de Bridget qu'en fait. C'est
Daniel qui a pécho la femme de Marc.
Voilà, donc en fait c'est l'inverse. Complètement l'inverse de ce qui a été
la
dit.
La mère rappelle une japonaise, une race cruelle.
Donc genre... toujours un petit racisme ambiant. Oh, on recommence. Mais du coup, là, Bridget se dit « Oh my God !» Et là, du coup, elle dit à ses parents « J'arrive !» Et elle prend la voiture et conduit comme une malade sur la route avec une super musique, c'est et elle débarque à la soirée et elle dit à Marc genre faut que je te parle et elle le prend à part et elle lui parle et elle lui dit elle s'excuse, elle dit j'ai appris qu'en fait c'était toi. Et là moi j'aime trop parce que Marc il dit non oui c'était ma femme.
Oui, et il dit, oh, ça explique beaucoup de choses. Et j'étais genre, oh là là, le pauvre! Sauf que là, il y a un deuxième plot twist.
Attends, parce que d'abord, elle lui fait une passage mignon. Elle fait quelque chose qui est assez classique dans les rom-coms, qui est la trope de la déclaration d'amour. Mais là, c'est une déclaration d'amour particulière parce qu'elle liste beaucoup de choses qu'elle aime pas chez lui. Ce qui est un peu connu, comme dans le film 10 choses que. 10 choses pour se faire larguer. Ouais, 10 things I hate about you. Qui est en fait, on dit plein de trucs, défauts de la personne, on dit, mais en fait, je t'aime quand même.
Bah comme lui il l'a fait un
comme lui il l'a fait au début, donc là on se dit, et elle lui dit je veux te revoir, et là on est là yes, mais
là le père vient tout gâcher, monsieur Darcy senior, parce que il fait nous avons un lancement, nous voudrions dire bravo à notre fils Marc et à Natachouin qui est toujours là, putain. Parce qu'en fait là, et là mon cœur saigne parce que mon cœur saigne parce que Marc part à New York à l'autre bout du monde. Et donc elle est genre non, elle crie dans la foule.
C'est à dire que ça c'est l'illustration de ce moment, vous savez, qu'on a tous un moment dans sa vie où on a juste envie d'être là quoi, mais non. Et en fait elle le dit littéralement, du coup elle se re-ridiculise devant tout le monde en hurlant non,
et le père de Marc il fait elle est bourrée. J'étais genre waouh, voilà. Quelle réputation.
Voilà, et là on arrive, ce film est assez cyclique parce que ça recommence. C'est la déprime, comme d'habitude. Elle est.
Attends, on n'a pas précisé qu'il y a deux nouvelles. Non seulement il part à New York, mais en plus il se fiance avec Natacha.
Donc là, on c'est cyclique, tout recommence, tout est perdu. Elle est seule sur son canapé en montage train de bader. Triste. Voilà, pendant que lui, on le voit prendre l'avion.
Et elle écrit sur son journal intime, elle raye, genre mon journal intime, et elle écrit journal de Bridget Jones, est célibataire et lunatique.
Ouais, vieille fille et lunatique.
C'est triste.
Mais du coup, c'est quand même mignon. Parce que ses amis viennent la chercher et lui disent « Allez, tu vas pas déprimer pour le nouvel an, on t'emmène à
Paris !»
À Paris. Et donc, elle sort, elle prend toutes ses affaires.
Et franchement, c'est une deux chevaux, le truc. Mais comment ils vont arriver à Paris? On sait pas s'ils sont arrivés à Paris, ces gens.
Bridget Jones 2. L'enterrement, par l'enterrement
de ses trois.
Non, mais du coup, là, on a la fameuse scène aussi où « Oh, elle ne trouve pas ses clés, du coup, elle est retardée. » Du coup, à la seconde près qui arrive derrière elle.
Marc Darcy, le Mike Myers de la comédie romantique, c'est lui, il est revenu.
Il a fait le classique trope de le demi-tour,
le demi-tour
dans l'avion.
Ça c'est un vrai trope.
Comme dans Friends et autres comédies romantiques.
J'ouvre une parenthèse, mais vraiment, j'ai revu Friends récemment. Qu'est-ce qu'ils font comme aller-retour à JFK? C'est fou. Mais ils ont où la thune et là pour prendre un taxi pour aller à JFK? Enfin.
Mais c'est assez classique dans les comédies romantiques, les scènes d'aéroport, amour et aéroport, c'est comme dans Love Actually, il y a beaucoup de scènes.
Mais qui a besoin finalement de thunes quand on a l'amour?
C'est ça.
L'amour,
ça paie.
L'amour, ça paie.
Donc Darcy revient et lui dit, j'ai oublié quelque chose.
Et là, on pense qu'ils vont s'embrasser, mais non, la vie est toujours une chienne, donc...
Parce que ses potes dans la voiture qui attendent Bridget font... Et sont ultra contents pour elle, ils disent « Bon, tu viens à Paris ou pas, wesh ?» Et elle dit « Bah non, en fait, là, je vais
baiser !» De toute façon, il n'y avait pas de place, hein. J'étais genre
« Ok. »
Qui sont ces gens?
Elle remonte dans son appartement et tu crois encore qu'elle va embrasser Darcy, mais non.
Et Darcy veut grave l'embrasser, genre d'ailleurs. Depuis quand on l'appelle par son nom de famille?
Depuis le début. On l'appelle Marc de
Marc, genre Marc. Mais il y a vraiment ce truc où il est genre... Il est trop dans le personnage romantique, genre il est un peu cambré, il est genre oh, genre un peu en homme, tu vois, oh,
je
suis pécho,
je suis prêt,
un peu en homme, ça fait vraiment ma vision de la masculinité.
Et elle elle, puisque c'est une fille célibataire et qu'il faut toujours qu'elle soit magnifique pour les hommes qu'elle va pécho.
Un de cette circonstance.
Voilà, elle lui dit attends 2 secondes et elle court changer sa culotte pour.
pour pas revivre le Game Gate.
Voilà, pour remettre un joli sous-vêtement, mais qu'est-ce qui se passe?
Le sous-vêtement est zébré, hein, j'ai noté.
Voilà.
13 années 2000.
Sauf que, en fait, le temps qu'elle mette cette culotte, que fait Marc?
Il y a sur la table de Bridget son journal intime d'une vieille fille lunatique. Et comme Marc sait lire, puisqu'on rappelle c'est un homme, il est intelligent, il va lire les passages de quelques mois auparavant où Bridget le détestait. Et qu'est-ce qu'il dit?
Elle dit il a un cornichon coincé dans le cul, je le déteste et ça m'étonne pas que sa femme l'ait plaqué.
Donc, bon mood.
Voilà, il lit tout ça et il dit littéralement à voix haute ok. Il ferme le journal
et là, claquement de porte. Et là, c'est pas bon.
Voilà, et là on se dit waouh, donc retour à la case départ ou comment ça se passe? Bridget sort de sa chambre, se rend compte que Marc s'est barré et qu'il a vu son journal et elle dit non! Et elle court à sa poursuite en culotte et en sweat dans.
Un véritable outfit à base d'un débardeur, une culotte, un gilet et des Air Max. J'étais genre ah, quand même. J'ai un minimum de style.
Et elle court sous la neige, évidemment, sinon ça serait pas assez romantique, à la recherche de Marc Darcy qui a disparu.
Et finalement, elle le retrouve au détour d'une rue londonienne. D'ailleurs, elle habite dans un quartier cool, hein, franchement.
Oui,
je crois
elle
qu'elle
a un super grand. Et elle a un super grand appartement, un autre petit classique des comédies
voilà,
romantiques.
Finalement, elle retrouve bon. Marc. Mais que faisait-il
voilà. Marc sort d'une boutique qui était ouverte à 22h.
Un 30 janvier.
Voilà, donc
après, franchement, Londres, tout peut arriver.
C'est ça. Et elle lui dit directement, je suis trop désolée, ce que j'ai écrit, je le pensais pas, enfin, si je le pensais, mais... Donc elle s'embrouille, et là, Marc, posé, il
le flegme anglais.
C'est ça, il lui dit, mais je savais, c'est pour ça que je t'en ai acheté un nouveau, pour
et
qu'on
là,
recommence.
Il sort de sa musette un nouveau journal intime.
Il pouvait pas juste lui dire depuis le départ, attends, je reviens, je vais te.
Non, mais quel drame, Queen, franchement, le mec, il a claqué la porte.
C'est
et moi,
ça.
Tu claques la porte, je vais pas te chercher en slip dans la neige, hein.
C'est grave, une drama queen.
Les hommes, ils parlent trop mal dans ce film, franchement.
Mais on aime le symbole, il lui a racheté un journal. Et c'est en mode, je pardonne tout ce que t'as pensé de moi, on s'en fiche. Et là, enfin,
on l'attendait.
Bisou et sous la neige, parce qu'on est dans une comédie romantique.
Incroyable, et il l'enveloppe dans son grand manteau, genre vraiment, c'est
oui,
très
mignon.
Oui,
j'adore cette scène. Et les passants les regardent et se disent, oh, c'est mignon.
C'est
et l'éternel célibataire fini. En couple, et c'est comme ça qu'elle est heureuse, les enfants, n'oubliez pas.
Célibat, rappelons que ce n'est pas un mode de vie viable si vous êtes une femme.
Ouais, surtout pas dans une vie de comédie romantique. Le film se termine avec le générique de fin, où il y a des petites scènes où on voit que...
Des petites interviews, ouais.
Ouais, que, en fait, Daniel, lui, ne vit pas sa meilleure vie
en
et
gros,
qu'il
c'est
célibataire.
C'est comme s'il était en face cam et qu'on l'interviewait en disant « Ah, mais vous avez entendu que Bridget Jones et Marc Darcy sont mis ensemble ?» Et en fait, on le voit 3 fois avec 3 meufs différentes sous le bras. Et il est genre « Oh, mais moi, j'ai toujours cru en leur histoire d'amour. Il y avait une véritable chimie entre eux. » Et genre... Ce pauvre mec.
Voilà.
Oh là.
Alors petite parenthèse LGBT Q+ dans ce mois des fiertés, la blague à la fin, c'est que en fait la dernière fille qui l'accompagne est en fait une personne
travestie, sans doute une drag queen, quelque chose comme ça.
C'est en fait la blague assez classique dans les comédies romantiques, mais pas que les comédies romantiques, juste les films de manière générale, où en fait la fille jolie a en fait une voix de bonhomme, et s'appelle Paul, et oh c'est drôle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va revenir dans Bridget Jones, parce que dans le 2, si je ne dis pas de bêtises, Daniel est en Thaïlande et couche...
Ouais.
Avec une fille qui s'avère en fait être une femme trans.
Voilà.
Voilà. Et c'est la blague, c'est un machin. Donc en ce mois des fiertés de juin, on fait quand même une petite parenthèse pour dire que les personnes trans ne sont pas un ressort, ne devraient pas être
un ressort comique
dans les films et que c'est pas des personnes qui font semblant d'être un autre genre pour vous séduire.
Voilà, et les drag queens et les gens qui se travestissent également en fait, le
voilà.
Transformisme, c'est vraiment un art et c'est rigolo et ça fait partie de la culture.
Voilà, donc moi c'est juste. Vraiment, le film se termine juste par cette note qui m'a saoulée. Mais
oui.
Rappelons que on est en 2001. C'est pas que c'est une excuse, mais à cette époque-là, on n'avait pas les mêmes rapports à ce genre de choses.
Oui,
on s'en rendait
moins. C'était des productions malheureusement qui étaient drivées par des gens qui ensuite, disons, ont fait partie dans de petites affaires un peu libidineuses, quoi. La plupart des producteurs de l'époque.
Voilà.
Voilà.
Bridget Jones, déesse du sexe et de la débauche, celle qui tient un sale type entre ses cuisses. Papa ?
On en vient donc à la partie au cœur de l'utilité de ce podcast finalement, puisque nous allons voir comment et pourquoi Bridget Jones fonctionne en tant que comédie romantique de qualité lorsqu'on l'étudie sous le trope de l'éternel célibataire. Flore, tu veux nous en toucher un mot ?
Oui, moi je trouve que ce qui fonctionne bien avec Bridget Jones, c'est que c'est l'éternel célibataire à laquelle on peut toutes se sentir proche d'elle, on peut toutes se dire qu'on a déjà été dans sa situation, parce que c'est une fille qui est maladroite, qui est supposément pas trop dans les standards de beauté, qui
alors c'est un canon, hein,
voilà, on va se dire, mais qui a du mal à trouver l'amour, qui est pas forcément attirée par des garçons qui sont bien pour elle. Mais qui quand même, et qui en plus a une fin qu'on voudrait quand même avoir tout au fond, c'est qu'on finit avec le gentil garçon. Donc je trouve qu'il y a vraiment des éléments qui fonctionnent bien. Il y a le côté très cliché du triangle amoureux, mais qui marche, qui fonctionne, et du coup on se sent très proche de Bridget.
Je suis d'accord avec toi, et je pense aussi que c'est tout bête, hein, mais le fait que ça se passe en Angleterre, c'est généralement les comédies romantiques anglaises sont plus terre à terre en fait que les comédies américaines, qui ont tendance à être plus dans le show, bah, dans le truc très américain en fait, de oh, anything is possible, you're a self-made man, alors qu'en vrai, genre, on n'a pas des héroïnes aussi un peu loser et tout. Bon, clairement, ça reste une bombe, Renée Zellweger, mais la manière dont Bridget est en fait mise en image, c'est vrai que ça pourrait être la copine de n'importe qui en fait, même voilà. Si nous on s'identifie pas forcément à tout, c'est vrai que on a tous un peu de Bridget en nous.
C'est ça, elle est attachante, elle est drôle, elle est maladroite, donc c'est vraiment ça qui fonctionne. Et en fait, on n'a pas de mal à se dire pourquoi elle est célibataire aussi, parce que parfois il y a des films, des comédies romantiques, on se dit
ouais,
mais comment ça elle est célibataire alors qu'en fait elle a l'air d'avoir tout pour elle. Bridget, elle a pas tout pour elle, mais en fait on finit par s'attacher, on finit par vraiment avoir envie qu'elle trouve quelqu'un. Et je pense que c'est aussi un film pour des gens quand on se sent très célibataire et qu'on se dit personne ne nous aimera jamais. Bridget Jones, on se dit on peut être comme Bridget, nous aussi on va trouver l'amour.
C'est ça. Par contre, il y a un petit truc, bon, au-delà, encore une fois, on va pas tacler ce point-là. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais disons que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a zéro représentation dans ce film au niveau de la couleur de peau et des ethnies des gens, hein. Tout le monde est très blanc. Il y a un petit peu de LGBT, donc c'est pas mal. Il y a Tom, le pote, l'ex-popstar gay. Bon, évidemment, le gay popstar, hein, c'est pas drôle.
Et très maniéré, mais...
Voilà, mais écoutez, c'était un pas en avant en 2001. On rappelle que c'était un autre temps et c'était pratiquement que des cons. Bref, voilà, maintenant on fait des efforts et les choses avancent et c'est bien. Mais au-delà de ça, il y a une autre représentation, je trouve, qui est un petit peu dommage. C'est que on n'a pas de personnage féminin fort avant la fin du film. Donc Bridget fait un plot twist d'elle-même où elle se dit genre « Ah, mais en fait, je te mérite pas ». Mais toutes ses potes, soit elles sont genre ultra chaudasses, enfin dépitées comme des chaudasses, hein, parce que, enfin, en vrai, on s'en fout, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais genre, sa pote Shaza, elle est coureuse de jupons, elle parle que de cul. Son autre pote, elle est dépressive parce que c'est avec son mec. En fait, je me demande si ce film passe le test de Bechdel. Honnêtement, je ne sais pas.
Si avec sa mère, elle parle pas.
Elle parle que de son de elle avec sa relation avec les garçons, ou sa relation avec son père, ou de sa relation avec son nouveau mec, Julian. Donc honnêtement, on va regarder sur internet, regardez-vous aussi, cultivez-vous, mais je ne sais pas si ce film passe le test de Bechdel.
Il y a quand même beaucoup de personnages féminins, il y a Natacha, il y a sa boss, il y a ses deux copines, il y a sa mère, il y a elle. Ah ouais, c'est vrai que c'est très tourné vers l'amour, et aussi un autre point un peu négatif dans ce film, mais bon, c'est comme une comédie romantique.
Oui, voilà, ça je l'en tiendrai par rigueur.
C'est que ça peint quand même le célibat comme quelque chose d'horrible, une souffrance horrible,
ça, vraiment. Un petit peu.
Quand on est célibataire, tout ce qu'on fait, c'est boire seul en pyjama dans son canapé, et ok, parfois ça arrive, mais pas que, et c'est vrai que ça c'est un tout petit peu dommage, mais on regarde rarement une comédie romantique pour se dire que l'amour ça ne sert à rien et qu'on n'en a pas besoin, même si c'est de plus en plus à la mode quand même maintenant. Il y a pas mal de comédies romantiques, je pense notamment Isn't It Romantic,
oui, où finalement le but de la protagoniste dans ce film là c'est de s'aimer elle-même avant d'aimer quelqu'un. Et en vrai c'est un peu ce que fait Bridget aussi, parce qu'elle se dit, enfin tout le truc du développement personnel et tout, je pense que la Bridget du milieu du film elle aurait jamais pu se caser, se poser avec quelqu'un. Et donc finalement moi je trouve que c'est un bon film, genre c'est vachement bien et tout. Après en fait tous les trucs qui sont pas très féministes, pas très respectueux envers les femmes, c'est dit par des personnages qui sont ultra négativisés, genre la mère, Daniel et tout. En fait il y a des choses qui sont dites qui sont atroces envers les femmes, mais c'est dit par des personnages qui sont atroces envers les femmes, et à aucun moment on dit que ces personnages ont raison de dire ça. Donc ça je trouve que c'est un vrai point positif, parce qu'il y a beaucoup de films où on dit des choses très sexistes et très misogynes, mais on ne les justifie pas du tout. Alors que là, c'est bon, au moins, c'est dit par des figures qui sont pas positives. Voilà, et on met vraiment l'accent sur l'empouvoirement de Bridget en tant que femme, etc.
Et je pense que quelque chose qui serait intéressant, ce serait peut-être de regarder le dernier Bridget Jones.
Le 3
tout dernier, le 3 qui est sorti, je ne l'ai pas vu non plus, mais qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ou 3 ans.
Sur la maternité, c'est ça, elle veut devenir mère.
Et que du coup, je me demande comment est-ce qu'il traite Bridget à une époque où maintenant les films, on est quand même censé être un peu plus féministe et un peu...
Et donc, surtout Renée Zellweger qui a été très critiquée aussi parce que être une femme à Hollywood, c'est dur de vieillir, visiblement, vu que tout le monde fait de la chirurgie esthétique. Et elle en a beaucoup fait. Et c'est vrai qu'elle ressemble plus trop à celle d'avant.
En fait, elle a pris beaucoup de poids pour Bridget Jones alors qu'à la base, elle était beaucoup plus mince.
Ouais.
Et en fait, elle a été cataloguée comme la fille...
Un peu ronde, rigolote, quoi.
Et rigolote, et elle a eu beaucoup de mal à s'en émanciper. Et du coup, c'est un peu mal fini.
Alors qu'il n'y a rien de mal, hein. Il n'y a rien de mal à être ronde. Rigolote.
Elle a un show sur Netflix.
Ou elle joue une psychopathe. Bon,
voilà, peut-être qu'on préférait Bridget.
C'est déjà la fin de notre deuxième épisode. Il était très long, je dis déjà, mais c'est pas grave. Je suis très fière de tout ce que nous avons fait pour l'instant, même si ça peut vous paraître pété. Nous, on aime bien ce qu'on fait.
Voilà, et on voulait remercier tous les gens qui nous ont aussi dit qu'ils aimaient bien ce qu'on faisait.
Oui.
Même si littéralement vous écoutez deux grosses bécasses en train de rigoler pendant une heure, ça nous fait vraiment très très chaud au cœur que vous preniez le temps d'écouter et de nous envoyer des petits messages pour nous dire ce que vous en pensez. Donc, si vous voulez continuer. On est à fond derrière l'idée.
Même si vous faites partie à 100% de notre famille proche. Pour ce qui est des recommandations de fin d'épisode, si vous souhaitez voir d'autres comédies romantiques avec le trope de l'éternel célibataire, Chef Flore, qu'avez-vous dans votre marmite ?
Aujourd'hui, au menu, le chef vous propose The Holiday avec le personnage de Iris, mais aussi I Feel Pretty, Isn't It Romantic et 27 Robes. En regardant cette liste, je me suis demandé si ce trope existait pour les garçons. Et je n'en ai pas trouvé dans ma tête, donc si vous en avez un, laissez un coms.
Alors j'ai une idée terrible, mais c'est vrai que le garçon célibataire est plus souvent un coureur de jupons, genre un mec qui arrive pas à se caser, ou un mec ténébreux de type Christian dans Fifty Shades of Grey, et je ne recommanderais pas Fifty Shades of Grey.
C'est ça, ou alors j'ai un tout petit peu pensé, c'est vrai que plutôt les mecs célibataires, t'as raison, soit c'est vraiment parce qu'ils sont en mode dark et tout, ou alors c'est dans des films qui ne sont pas vraiment des rom-coms, je pensais à Scott Pilgrim, ce genre de choses.
Ah oui, c'est des puceaux en fait.
C'est un peu des puceaux. C'est ça qui est drôle, etc. C'est un peu des losers. Peut-être 40 ans toujours plus chaud pourrait compter.
Ah, c'est un peu une rom-com, hein, 40 ans toujours plus chaud. J'aimerais bien qu'on la fasse, j'adore.
L'éternel célibataire, on a un homme, Steve Carell. Voilà.
Qu'on aime beaucoup. Bisous, Steve.
Bisous, Steve. Et sur ce, au revoir, Clara.
Au revoir, Flore.